Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Yann Diener, vous êtes psychanalyste, vous travaillez notamment en CMPP, le Centre médico-psychopédagogique, et vous avez publié à La Fabrique en 2011 un ouvrage sur lequel nous allons réfléchir aujourd'hui. On agite un enfant, l'État, les psychothérapeutes, les psychotropes. Alors, pour les auditeurs de France Culture, je voudrais que vous reveniez sur ce titre un peu complexe que nous allons dans cette émission déployer, titre qui dit votre analyse des enfants agités, au fond qui dit qu'est-ce qu'un enfant agité, qu'est-ce qu'il agite. Et la question première que je voudrais vous poser, c'est pourquoi avez-vous utilisé le verbe agiter à la voix active dans l'expression « on agite un enfant » ?
C'était l'envie de retourner un peu ce qui se dit de plus en plus aujourd'hui, que les enfants sont agités par essence et que c'est leur nature, il faut leur trouver un traitement tout de suite. Et on interroge de moins en moins le contexte dans lequel ils s'agitent et ce qui les agite, et de quoi il s'agit, si on peut dire. Voilà, donc c'était un titre un peu provocateur de « on agite ». Effectivement, on ne sait pas qui est ce « on », mais c'est l'idée du livre, c'est de déplier les coordonnées de cette agitation générale qui est projetée en ce moment sur les enfants.
Très bien. Enfants agités par qui, par quoi, hein, c'est la question que vous nous posez. Alors, vous produisez à l'intérieur de votre livre une analyse de l'histoire des institutions médico-psychopédagogiques qui connaîtraient aujourd'hui une dérive, quelque chose qui était né dans les années 40 d'après-guerre, quoi, 46, et qui est peut-être aujourd'hui en train de se perdre. Pourriez-vous nous retracer cette histoire des centres médico-psychopédagogiques et puis la dérive actuelle ?
Mais la nouveauté de ces centres juste après-guerre, effectivement, c'était que ce soit des lieux généralistes, créés par des psychanalystes, qui voulaient décaler ces lieux-là des dispensaires pédopsychiatriques classiques qui étaient pour des prises en charge plus lourdes et très centrées sur des symptômes, très spécialisés, très médicaux. Et les psychanalystes créent ces centres pour que justement l'enfant puisse y venir avec ses parents, l'enfant ou l'adolescent, avant que ça aille très mal, disons. C'est-à-dire venir pour juste, si on peut dire, juste parler de ce qui ne va pas. Ça a fonctionné pendant très longtemps comme ça, et c'est ça qui est remis en question, c'est la dimension comme ça généraliste. De plus en plus, les structures, pas seulement pédopsychiatriques, mais aussi dans la psychiatrie en général, se spécialisent. On veut évaluer, on veut comptabiliser les résultats des prises en charge. Donc ça a un effet immédiatement réducteur sur la façon de recevoir ces enfants. Plus en plus, on se centre sur le symptôme. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'on n'est pas intéressé par un effet soignant, par une guérison, mais la question est de savoir comment on s'y prend, est-ce qu'on se jette sur le symptôme ou pas, de quelle manière on y répond. Effectivement, ces centres médico-psychopédagogiques ont été ces dernières années très attaqués, et la Fédération des CMPP répond à ces attaques en disant qu'on... On dit qu'on veut maintenir les fondamentaux de ces lieux-là, c'est-à-dire une référence à la psychanalyse. Et puis on refuse que, par exemple, à telle pathologie qui serait étiquetée, soit associée un certain nombre de séances pour le guérir. Et on va vers ça, on évite ça. Heureusement, on va plus vers ça parce qu'on a réagi. Mais c'est un risque de tout le système de soins aujourd'hui.
Bien sûr, on avait dénoncé à l'antenne de cette radio et dans le cadre de l'Union rationaliste, le paiement à l'acte dans les hôpitaux qui va exactement dans le même sens.
Voilà, et le glissement est en train de se faire dans le médico-social, dans toutes ces structures qui sont un peu parallèles au secteur santé à l'hôpital et qui apportent quelque chose justement d'être en décalage avec ce système-là. Et donc on veut effectivement défendre ça, que ce soit, ce soit encore possible pour des enfants juste de venir dire qu'ils ont un souci, ou pour les parents, dire quel problème ils ont, quelle inquiétude ils ont. C'est une autre conception du symptôme, c'est la conception psychanalytique du symptôme. C'est que ça dit une vérité qui a besoin d'un peu de temps. Ça ne veut pas dire très longtemps, hein, mais d'un petit peu de temps pour se déplier et s'énoncer.
Oui, je comprends bien ce que vous avez en tête. Alors, j'aimerais que vous reveniez sur le processus que vous dénoncez dans votre ouvrage de catégorisation du langage médico-social et sur précisément cette catégorie d'enfants agités. Vous dénoncez de façon assez spirituelle le LMS et vous parlez par sigle, le langage médico-social. Vous battez contre ces appellations, le TDAH, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Ces sigles constituant une dérive, est-ce que vous pourriez nous expliquer ?
C'est-à-dire que les sigles viennent remplacer de plus en plus la parole et on utilise des sigles de plus en plus dans le secteur de la santé et malheureusement de plus en plus dans les lieux où les psychanalystes travaillent. Donc ça vient gêner même la parole des psychanalystes et on regrette même certains psychanalystes, par économie de langage comme ça, passent aussi à une façon de parler qui est plus proche du sigle que de formules plus dépliées, mais plus précises, plus singulières. Alors, effectivement, le livre prend l'exemple de ces enfants agités parce que c'est au carrefour de plusieurs enjeux. TDAH, effectivement, c'est l'aboutissement d'une série de glissements sémantiques. Avant, on disait que l'enfant avait un symptôme ou qu'il souffrait, sous-entendu, temporairement dans un certain contexte, d'agitation ou trouble de la concentration. Même ce mot trouble-là a disparu dans les derniers textes de loi et c'est recouvert par le terme de handicap de plus en plus facilement. Et c'est recouvert par des sigles TDAH. Maintenant, on dit même plus un enfant s'agite, on dit même plus il est agité, on dit il est TDAH. Donc, c'est encore plus réducteur. Et puisque ça a un caractère comme ça pseudo-scientifique, technique, dès qu'il y a un sigle, ça fait sérieux, ça sert d'une certaine manière aussi, ça rassure un peu des parents ou des enseignants qui savent enfin, alors qu'ils avaient bien vu que l'enfant était agité, mais là ils peuvent mettre une étiquette dessus.
Ça fait scientifique.
Voilà, et puis il y est associé du coup un traitement, une molécule,
une solution.
Un médicament qui a un effet immédiat et qui évite qu'on prenne trop de temps à parler de ce que ça dit.
Au début de votre livre, pour expliquer justement l'agacement premier qui a été le vôtre, vous faites un prologue en forme de parabole. Est-ce que vous pourriez le raconter aux auditeurs sur le parent de l'enfant agité ?
Ah oui, c'est l'exemple de parents qui sont appelés par un directeur d'école à différentes réunions pour parler du fait que leur enfant il est un peu perturbateur, qu'il perturbe un peu la classe. Il s'agite et du fait des réglementations, enfin des grilles dans lesquelles le système éducatif est pris, les réunions passent de simplement « il se passe quelque chose avec votre enfant, il est un peu agité » à « il a un handicap, il est TDAH ». Donc il y a ce glissement comme ça qui est décrit un peu de façon comique, mais qui malheureusement est assez réaliste.
Et ça n'induit pas qu'une étiquette.
Pas qu'une étiquette, ça a des effets même dans les pratiques et des enseignants et puis des soignants autour qui ont affaire aux enfants qui avant étaient effectivement à qui on proposait d'aller au CMPP parce que manifestement il y avait quelque chose qui les agitait. C'est de moins en moins cette réponse-là qui est donnée, qui peut être donnée par les enseignants parce que ils sont pris dans quelque chose qui est... Avant, un enfant qui effectivement était un peu... qui avait du mal à se concentrer, on lui proposait une aide, un enseignant spécialisé. Bon, tout ça, ça a été cassé.
Et pour des raisons aussi d'économie
de comptable, voilà, de gestion à court terme, mais qui sur le long terme vont coûter beaucoup plus cher. Mais bon, ça, c'est comme dans d'autres domaines.
Bien sûr.
Aujourd'hui, pour qu'un enfant bénéficie d'une aide comme ça, personnalisée, il faut qu'il passe par un statut de handicapé, même si c'est juste parce qu'il a une difficulté à se concentrer. Aujourd'hui, ça vient de passer récemment. Pour qu'un enfant soit maintenu en classe maternelle, quand il est un peu en difficulté pour passer en CP, ce qui pouvait se faire assez simplement avant, maintenant, il faut qu'il passe sous les fourches codines de la maison du handicap. Pour qu'un enfant juste prenne un peu plus de temps à la maternelle aujourd'hui, il faut qu'il ait l'étiquette de handicapé.
C'est à la fois horriblement stigmatisant pour l'enfant, troublant et stigmatisant pour les parents, et précisément, ça fausse toute l'analyse sociale.
Ben oui, puisque du coup, d'autres qui auraient besoin de l'étiquette, effectivement, ou handicapé. Du statut d'handicapé, et ça se vient flou qui s'installe, on ne sait plus qui a besoin de quoi, enfin, ça, c'est un glissement généralisé.
Alors, l'analyse de cette dérive et de ce glissement vous conduit à poser un regard critique sur non seulement les nouveaux usages linguistiques, on l'a vu et on l'a dit, mais aussi les nouveaux usages étatiques et commerciaux. Et là, précisément, je pense au rapport aux médicaments et à la pharmacopée.
Oui, parce qu'il y a, bon, c'est le cas de beaucoup de produits hein, qui pour être mis sur le marché ont besoin d'abord d'une démarche commerciale, c'est-à-dire de l'invention d'un nom d'une maladie, l'invention, pas de la maladie exactement, mais du nom qu'on va donner à une maladie pour vendre tel produit, qui a un effet sur ce qu'on essaye de nommer. Donc là, c'est ce qui s'est passé avec le produit qui s'appelle la Ritaline. C'était... Mm-hmm.
Alors, racontez ça.
C'est un dérivé d'amphétamine. Le laboratoire cherchait à quoi ça pourrait servir. Ils ont constaté, entre autres effets, que ça avait un effet sédatif sur les enfants qui bougeaient un peu trop. Donc, ils ont construit, mais c'est assumé hein, par tous les gens qui construisent les classifications nosographiques et qui travaillent avec les labos pour ça.
Et les services marketing,
voilà, certainement. C'est un métier. Hein. Donc, ils ont fabriqué cette maladie qui était nommée TDAH, qui est rentrée dans les classifications. Donc, ça fait sérieux, encore une fois, pour vendre ce produit qui s'appelle la Ritaline et qui est malheureusement beaucoup prescrit, de plus en plus. Alors que même qu'aux États-Unis, on commence à moins la prescrire parce qu'on l'utilise depuis longtemps. Donc, on commence à repérer
des effets
sur la maturité sexuelle des enfants, sur la croissance, avec des possibilités de troubles cardiovasculaires. Bon. L'Agence française du médicament vient de mettre ce produit sous surveillance accrue, là, parce que, bon, mais c'est quand même encore beaucoup prescrit.
Alors, ce que vous dénoncez, au fond, dans « On agite un enfant », c'est qu'il y a un mouvement de va-et-vient entre les labos pharmaceutiques et la dérive langagière et que le TDAH renvoie à la Ritaline, la Ritaline au TDAH et qu'au fond, la psychanalyse ou la psychiatrie se trouve engagée dans une logique de fermeture où le symptôme ne peut plus se dire en termes calmes et posés, mais prescriptifs.
Oui, parce qu'il y a un discours aussi de plus en plus validé par des messages publicitaires ou par le pragmatisme d'État qui veut faire, ça c'est légitime, des économies dans l'hôpital ou pour que... Et du coup, c'est demandé de plus en plus instamment par les parents. Et encore une fois, c'est légitime. Et pour qu'il y ait un résultat très rapide quand un enfant vient dans une institution comme un CMPP. Il y a une cohérence, effectivement, entre différents discours. Il n'y a pas forcément un grand architecte de tout ça, mais il se trouve qu'il y a une cohérence qui a fonctionné notamment pour ce produit-là, pour cette pseudo-pathologie-là. Voilà, donc les CMPP sont des lieux où encore des psychanalystes peuvent travailler, où encore des psychanalystes disent que ben, pour certaines choses, il faut quand même vraiment prendre le temps de parler. Encore une fois, pas forcément de manière pendant des années, mais que aucun symptôme déploie toutes ses coordonnées, toutes ses raisons, bah, il faut prendre le temps de parler un petit peu d'autres choses, de choses qui vont amener à ce que des choses qui ne pouvaient pas se dire autrement que sous forme de ce symptôme-là, que ce soit agitation ou d'autres, que tout ça puisse se dire, y compris chez les parents, que les parents puissent parler. Si effectivement il y a une solution qui est proposée par d'autres instances et aussi de plus en plus par des soignants, qui est une solution rapide, efficace, parce qu'effectivement les amphétamines à un certain dosage, parce que c'est ça la Ritaline, ça calme. Bon, mais sauf que du coup, bah, on a encore moins de raisons de prendre du temps à essayer de dire bah, ce qui n'arrive pas à se dire autrement. Donc c'est reculer, voilà. Donc. Le livre, c'était effectivement un coup de colère pour pas seulement critiquer comme ça ou la logique d'économie de l'État ou la logique commerciale des labos, ce qui a déjà été fait, de critiquer ça, Mais c'était pour dire que malheureusement, de plus en plus de lieux comme ça où les analystes travaillent sont ou fermés ou mis en danger dans leur pratique. Et que malheureusement, c'était en fait ce que je voulais surtout dire dans ce livre, que beaucoup de psychanalystes, une partie, heureusement pas tous, de psychanalystes, ont, à mon avis, participent à cette logique-là, pas forcément au même point, au même titre, au même plan, mais qu'ils acceptent certains compromis dans certaines réglementations proposées par l'État, voilà, qui les font, leur font participer à cette logique comptable.
Ce que je comprends, Yann Diener, c'est que votre façon d'aborder les choses en rationaliste et en psychanalyste rationaliste, c'est l'exigence absolue de donner du temps au temps et de ne pas assigner ou d'enfermer les êtres dans des symptômes et dans des solutions à court terme, dans des étiquettes. Est-ce que ce serait dans ce sens que vous définiriez votre rationalisme ?
Oui, la pratique de la psychanalyse, à mon avis, elle doit être, elle peut être et elle doit être explicitée. Les analystes qui ont pendant trop longtemps dit que c'était la psychanalyse ineffable, tant qu'on n'en a pas fait l'expérience, on ne peut pas comprendre. Ils participent à un obscurantisme qui fait que, du coup, aujourd'hui, certains mettent la psychanalyse du côté de l'obscurantisme. Alors qu'on peut tout à fait dire en quoi, on en parle avec les parents des enfants qu'on reçoit, c'est même nécessaire de dire pourquoi on pense qu'il faut prendre un certain temps pour qu'eux puissent parler un peu d'autre chose que seulement du problème qui est là, qui est présenté ou qui est signalé par l'école. Les psychanalystes doivent dire un peu leur logique, leur raison et la raison du symptôme, comment tout ça se construit, comment ça se tisse par des mots, par des malentendus, par des signifiants qui se nouent et qu'on peut dénouer, mais qu'il faut passer par la parole. Et ça, on a les analystes qui disent toujours il faut parler, doivent parler là-dessus.
C'est sur ces paroles-là que nous allons clore cette émission. Yann Diener, je vous remercie. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de l'Union Rationaliste où toutes nos émissions sont archivées et vous pouvez également voir nos publications, les sommaires de raisons présentes et les cahiers rationalistes. Je remercie Brigitte Mazir et Éric Boisset qui ont rendu possible cette émission et je vous dis bonnes vacances et au mois prochain.